Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes aux Utopiales et nous sommes avec Pierre Bordage. Bonjour.
Bonjour.
On est ensemble pour discuter de votre dernier roman qui est sorti aux éditions Léa, Incarmation. Il y a beaucoup de sites internet qui disent que c'est votre roman peut-être le plus personnel. Est-ce que vous partagez cette impression-là ou c'est un ressenti de journaliste ?
Tous mes romans sont personnels déjà. Disons que peut-être ce roman-là entre plus directement dans le vif du sujet sur mes préoccupations qui me suivent depuis toujours, qui est la recherche spirituelle, et essayer de dégager une vraie voie spirituelle différente des religions, parce que je pense que ça fait partie des composantes humaines d'avoir une vision spirituelle de la vie. Donc je suis parti sur le karma, qui est une notion qu'on retrouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, et dans quelques autres religions d'Asie principalement, parce que le karma m'intéressait non pas en le considérant comme un jugement moral sur ce qu'on fait de bien ou de pas bien, mais sur le fait qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait pas de réaction dans l'univers. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'était de voir comment la réaction agissait. C'est comme ça que j'ai créé ces deux groupes d'entités, les unes cherchant à déséquilibrer la trame karmique et donc à précipiter la création à sa perte, et l'autre essayant de rétablir la trame karmique pour justement préserver l'équilibre. Et je me suis basé là-dessus sur la trinité hindoue, hein, qui est Brahma, Vishnu et Shiva, c'est-à-dire force de création, d'équilibre et de destruction. Et c'est un peu ces forces en action, les forces de destruction, puis les forces d'équilibre que représentent les karmacharis, les guerriers du karma, et les forces de destruction que représentent les démons de l'abîme et les seigneurs souverains des abîmes. Voilà, donc c'est une sorte de variation à la fois aventureuse, romanesque, sur cette notion de karma, ce qui me permet aussi d'explorer, parce que je pense que chacun de mes bouquins, c'est une exploration d'une facette de l'humanité ou de mes propres facettes à moi, du coup. Donc voilà, bon, c'est peut-être en ça qu'il est personnel, mais tous mes bouquins sont aussi des explorations de l'âme humaine, l'écriture étant une sorte de fil d'Ariane dans mes labyrinthes. Voilà, chaque bouquin est une pierre de plus à l'édifice global de réflexion sur l'humanité.
On n'est pas sur un domaine purement religieux. J'ai l'impression qu'on est, on est à la limite, façon de parler. Alors après, j'ai peut-être un point de vue très occidental sur le sujet, mais entre la philosophie en fait et la spiritualité, ou en tout cas le côté réflexion justement sur le karma, l'âme, etc. Même si c'est pas du tout les mêmes sujets. Pour vous, on peut le prendre dans tous les sens, façon de parler. Ça peut être. Je veux pas dire que c'est un roman qui pourrait donner des idées en fait pour avoir vraiment une façon de vivre. Mais on est quand même proche de ça, je trouve, sur ce roman-là, particulièrement.
Oui, c'est d'ailleurs, quand on me demande comment classer le roman, je ne sais pas très bien comment le classer, parce qu'effectivement, ce n'est pas religieux, ce n'est pas purement philosophique. Encore une fois, c'est un roman d'aventure d'abord, ensuite c'est un roman d'initiation, puisqu'on a un personnage qui a un parcours initiatique assez fort. C'est un roman d'amour, c'est beaucoup de facettes dans ce roman, donc... Mon travail, c'est d'essayer de dégager une vision spirituelle qui soit libérée des dogmes religieux. C'est ce que j'ai encore essayé de faire dans ce roman. Finalement, je pense que la meilleure façon de résumer le roman, je dirais que c'est un roman mythologique, quelque part. Parce que la mythologie associe tout ça, c'est pas vraiment religieux. On y trouve quand même des dieux, des déesses, des souverains, des seigneurs, comme dans le roman. Il y a le seigneur de souverain des abîmes, le seigneur des seigneurs du karma. Qui sont-ils des sortes de dieux, des entités un peu omniscientes, mais il n'y a pas de culte érigé sur leur nom, ce sont juste des gens qui agissent pour la sauvegarde de l'humanité, pour préserver l'équilibre de la création. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans l'essence mythologique des choses que religieuse ou d'autres définitions. Et puis comme ça tombe bien, parce que comme je suis un passionné des mythologies et que je pense que toute littérature de l'imaginaire sont quand même bâties sur un socle de mythologique important, ben voilà, c'est une déclinaison mythologique, plus basé sur des notions propres aux religions orientales ou aux philosophies orientales. Voilà, décliné. Je m'intéressais à explorer cet univers-là et je l'ai fait. Pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est en ça qu'il y a une forme peut-être de roman personnel par rapport à d'autres romans.
Et un seul volume, finalement, parce que quand on a un univers aussi riche, on aurait pu partir, alors peut-être pas sur, comme la fraternité du Panka, sur quelque chose de très très long, mais ça aurait pu se développer un peu plus, comme sur les griots célestes en deux tomes.
Oui, mon idée c'était de faire un volume, et puis bizarrement j'ai tenu en un volume. C'est des choses qui m'arrivent pas, là je suis en train de faire un autre cycle et je me suis rendu compte, enfin c'est devenu un cycle, c'est parti sur un volume et c'est devenu un cycle. Et là je sais pas, l'histoire s'est bouclée, évidemment on pourrait y revenir très facilement et on peut créer autant d'aventures que l'on veut dans cet univers, parce que c'est infini. Après, il suffit de choisir des périodes historiques, des périodes futures, ou etc., et puis d'envoyer des agents, refaire des histoires. Il y a le système de réincarnation qui fait que ça peut être infini, hein, c'est sûr. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre de certaines réactions de lecteurs, ils sont un peu étonnés par le côté abrupt de la chose, mais finalement, ça leur va bien, quoi. Ils disent, ça va vite, mais il n'y a pas de digression, de façon de rallonger la sauce, c'est comme ça. Et ce côté un peu rapide donne, je pense, une sorte de vision kaléidoscopique de l'univers. Et on passe de Babylone à... Enfin, de l'Empire néo-babylonien au futur le plus lointain, on passe par la préhistoire, l'Ouestern, enfin bon, il y a une sorte de collusion de plein de mondes à toute vitesse qui donne, je pense, cette impression de à la fois de vertige et puis de diversité humaine.
Et cette ligne de temps, vous aviez besoin qu'elle soit très très longue pour montrer l'importance de cet équilibre
Elle est infinie, la ligne de temps. Enfin, nous, on a une vision linéaire du temps. La flèche allant toujours dans la même direction, on est poussé vers la sortie tranquillement. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler le temps d'une façon différente, c'est-à-dire de façon multidirectionnelle, de façon à ce qu'on puisse intervenir dans n'importe quand. Donc, cette flèche du temps, enfin, le temps, du coup, devient une sorte de trame. Dégagé de son unidirectionnalité pour partir dans tous les sens et ça fait que c'est complètement infini. Le temps voulant dire l'existence quasiment. Et évidemment, le but des seigneurs du karma, c'est de prolonger cette notion de temps, cette trame karmique, pour que la création puisse exister. Sans ça, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de tension matérielle qui fait la création.
Et à la fin, toujours des choix personnels pour pouvoir justement conserver cet équilibre. C'est-à-dire que même si on a des seigneurs, après, c'est quand même l'action de l'agent, alors avec un effet papillon démultiplié, on peut dire, qui fait que l'équilibre est toujours là, quoi.
Ouais, et puis y a une surprise à la fin, hein, je la dévoile pas là, mais quel est le maximum de l'évolution, finalement. Ouais, c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que... Aussi, peut-être que les humains qui sont un peu ballottés dans l'histoire, parce qu'on s'acharne un peu à leur perte, enfin eux-mêmes s'acharnent à leur perte d'ailleurs. Je pense que les démons de l'abîme sont un peu une métaphore pour parler des humains eux-mêmes, qui cherchent sans arrêt à détruire leur propre trame et en mésestimant totalement leur importance dans le processus de la création. Je recherche beaucoup dans les livres et puis aussi même, la science est impossible pour l'instant d'aller dans cette direction, bien que la physique quantique ait entrouvert quelques portes, sur le fait que le regard de l'observateur est aussi important que le phénomène observé. Et que sans le regard de l'observateur, il n'y a peut-être pas de phénomène observé. Donc voilà, c'est ça que je cherche. C'est-à-dire, est-ce que les choses existent parce qu'on porte dessus un regard conscient ? Dans le fond, c'est le fond du travail que je fais depuis des années, même si c'est déguisé. Hein, c'est vrai, des déguisements, j'en ai pris plein. J'ai fait de la fantasy, de la SF, plus ou moins lointaine, anticipation. Je me fais même du contemporain. Mais dans le fond, c'est est-ce que les choses existent parce qu'on a sur elles un regard conscient ? Est-ce que si on n'a plus ce regard, parce que quand on dort, quand on est mort, ça je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas encore passé, mais quand on n'a pas la conscience, est-ce que les choses existent vraiment ? C'est une interrogation qui est posée par l'hindouisme sur la notion de Maya, c'est-à-dire est-ce que nous ne rêvons pas en permanence le monde ? Et ça m'intéresse énormément.
Avec toujours des relations humaines derrière, très très importantes en fait, qui sont, j'ai envie de dire, les petites lignes de force qui font que l'édifice reste stable.
Ouais, c'est... étant moi-même un humain, jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'un jour on me dira, mais non, pas du tout, je suis pas un humain. Et que, parlant une langue humaine, je m'adresse évidemment à des humains, pour parler des problèmes humains, des relations humaines, des interactions humaines, c'est aussi ça qui m'intéresse. Tous ces êtres conscients qui cohabitent comme ça, quelle est la finalité de cette coexistence humaine, c'est toutes ces milliers de milliards de consciences qui sont... Ça m'intéresse énormément et je suis un militant pro-humain, en fait, en quelque sorte.
Ça se ressent de toute façon sur tous vos ouvrages, enfin, vous avez, je crois, jamais écrit de dystopie. Vous êtes toujours avec des choses positives à la fin, même s'il y a des passages des fois un peu noirs.
Il y a des passages dystopiques, enfin. Mais... Par exemple, Les Derniers Hommes, où, bon, il y a du post-apocalyptique, par exemple, qui par essence est un genre qui parle de destruction et qui parle de l'après-destruction. Donc ça, j'ai donné aussi. J'aime beaucoup aussi ça pour essayer de justement d'explorer les ressources humaines en cas de destruction, de fin des temps. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a toujours... Moi, je me vois mal en tant qu'auteur inviter un lecteur à un voyage plus ou moins long et lui fermer la porte à la fin en disant « il n'y a plus d'espoir, c'est plus la peine ». On n'a pas cheminé ensemble sur un certain nombre de pages et d'heures de lecture ou d'heures d'écriture pour moi pour arriver nulle part. Je pense que c'est aussi l'essence même des mythologies, des contes, et c'est de dégager une lumière au bout du chemin, parce qu'on est dans l'obscurité. Je veux dire, par exemple, le Graal, la quête du Graal, enfin, le sujet de la table ronde, c'est le roi se meurt, le royaume dépérit, et il faut retrouver le Graal pour remettre les choses en place, pour ramener une harmonie perdue. Donc, souvent, les récits partent de constats dystopiques au départ. Ça va mal, il y a quelque chose qui cloche dans cet univers-là. Et il faut que des personnages, des héros se lèvent. De toute façon, c'est le rôle du héros tel que défini par Joseph Campbell, le mythologue américain, le héros aux mille visages. C'est le personne jeune, dynamique, qui n'a pas trop d'a priori, qui se met en chemin pour ramener une harmonie qui a été perdue. Évidemment que... Pour moi, je ne peux pas dissocier une aventure dans un roman avec une fin positive. Sinon, mièvre, hein, la façon hollywoodienne avec coucher de soleil. Mais j'aime bien ça aussi, hein, avec violon et coucher de soleil. Mais au moins, qu'il y ait une issue quelque part, qui est toujours une façon d'échapper à la fin totale.
Ça va dans ce que vous disiez au début. Chaque roman est un élément en fait de vous, enfin de votre création. Les personnages évoluent aussi à l'intérieur du roman, et du coup, le lecteur lui aussi doit sortir un peu, pas éveillé, on peut pas dire changer. Ça, mais changer après la lecture.
Ce qui est intéressant, je pense que j'ai réussi un livre quand un lecteur me dit j'ai changé, j'ai modifié un peu mon point de vue sur les choses, même si c'est très très peu, même si c'est bougé d'un degré, d'un demi-degré, ben ça bouge quand même quelque chose, je change les lignes. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'au bout du voyage, tout le monde doit être transformé, sinon on a voyagé pour pas grand-chose. Le lecteur doit être transformé, l'auteur a été transformé par son propre récit. Le lecteur est transformé comme les personnages sont transformés. Donc tout le monde est transformé. Et c'est à mon humble avis, c'est à ça que servent les romans principalement, surtout les romans de l'imaginaire où il y a un côté initiatique fort. Je ne peux pas trop dissocier ce genre-là, parce que c'est, encore une fois, c'est pour moi des genres mythologiques, enfin posés sur le socle mythologique. Et donc dans les mythologies, il y a toujours un cheminement, il y a toujours une évolution, il y a toujours soit une déification, soit une métamorphose, soit on ramène quelque chose qui va apporter l'harmonie à la société. Bon, voilà, on va ramener une toison d'or, regardez le voyage d'Ulysse, l'Odyssée, c'est pas facile pour lui de rentrer, hein. Il connaît quelques épreuves, mais la fin, c'était cette espèce de rassemblement, de réunification du tout. Qui fait que, voilà, de nouveau l'harmonie peut... Pourtant, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de choses, il est descendu aux enfers, il a fait plein de trucs, et la fin, c'est pour te réunir à sa moitié, qui est Pénélope, et pour créer une sorte d'unité, et de l'unité naît l'harmonie. Ce schéma-là, je prends volontiers mon compte.
Toujours avoir une sorte d'équilibre avec quand même une évolution pour que la stabilité reste, quelles que soient les épreuves rencontrées.
Parce que à la fin de l'aventure, normalement, on doit être doté d'une nouvelle richesse qui va permettre justement cette stabilité dont vous parlez. Parce qu'on va peut-être moins commettre d'erreurs, et peut-être qu'avec le temps après, avec les habitudes, reviendront les erreurs. Mais pendant un certain temps, on a un certain âge d'or, parce qu'on a ramené quelque chose qui change très positivement les choses, et qui les maintient dans une certaine durée pendant un temps indéterminé, on va dire.
Vous pourriez reprendre la phrase de Nelson Mandela, de « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ».
Ouais, c'est ça. C'est ça. Les pertes ne sont que des gains, finalement. Il faut savoir perdre pour gagner. Et je pense que l'évolution, c'est ça, c'est l'apprentissage de la perte, en fait. l'apprentissage de la douleur, l'apprentissage de, du deuil, de la souffrance, tout ça. Ouais, je pense qu'il y a une grande part de vrai là-dedans.
Ça a été recorrigé beaucoup, votre dernier roman, ou est-ce que vous l'avez sorti un peu d'un trait, parce que c'est toujours...
Recorrigé par qui ?
Par votre éditeur, ou vous-même, en fait. Est-ce que vous êtes parti sur des pistes, et puis finalement, vous vous êtes dit, bah non, je peux pas partir par là, c'est trop long, ou au contraire, comme vous disiez, que vous l'aviez fini en un seul volume ?
Ouais, je travaille en immersion, c'est-à-dire que je ne fais pas de plan, ni ne prévois quoi que ce soit sur le roman.
Vous n'avez pas la fin avant de commencer ?
Non.
Ok.
Je le laisse, ça m'arrive, hein, sur un livre comme Wang, j'avais une trame à peu près globale, vraiment très flou, hein, mais je disais ça va aller par là, bon je suis peut-être arrivé par là, pas exactement à l'endroit prévu, mais il y a sur beaucoup de livres comme Les Gars du Silence, je savais pas du tout où j'allais, je savais pas tout comment ça allait terminer et tout ça, et je laisse le livre se boucler par lui-même, donc c'est un peu lâche de ma part. Hein. je laisse tout le boulot au livre, mais je me considère plus comme celui qui accueille le livre qui passe à travers moi, et je l'accueille par l'écriture, et lui s'organise à travers moi, donc... les personnages me guident. Si j'ai pas les personnages, je ne vois pas l'univers. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le regard qu'on porte sur la création. C'est le regard que portent les personnages sur la création qui font que le monde existe autour d'eux. Donc je me fie beaucoup aux personnages, à leurs sensations, à leurs ressentis, à leurs visions, et j'avance comme ça. Peu à peu, le monde se dévoile sous mes yeux. Et je le découvre moi-même en même temps que les personnages. J'ai besoin de cet aspect découvert du monde en train de s'écrire. Sinon, je suis desséché, j'ai plus envie d'écrire. J'ai essayé de faire un plan une fois avant, et c'était pour un Roel, donc c'était pas trop, ça prêtait pas trop à conséquence, parce que de toute façon, bon, j'ai perdu un peu de temps, parce que je suis arrivé à 70 pages, et le livre était mort pour moi, ça m'intéressait plus de l'écrire. Je savais ce que j'allais faire, quel intérêt. Donc j'ai appelé l'éditrice et je lui ai dit, écoute, je suis complètement coincé. Elle me dit, ben, vas-y, balance tes 70 pages et recommence et élargis, enfin, laisse-toi aller. Et c'est ce que j'ai fait, et je me suis senti beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc j'ai compris à ce moment-là que j'étais fait pour travailler comme ça. Et c'est pas toujours confortable. Bon, je pense qu'il y a des inconforts dans les deux cas. Parce que quand on fait un plan, l'inconfort, c'est d'écrire après. Souvent, les structurants, ceux qui ont besoin d'une structure forte, ont beaucoup de difficultés à écrire derrière. Parce que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de créer une architecture de monde et puis des fiches de personnages et tout ça, presque comme un jeu. Et donc, après, faut mettre tout ça en roman et c'est pas du tout évident. Le problème des scripturants, de ceux qui partent par l'écriture, qui partent avec l'écriture et dont l'écriture organise le monde, c'est qu'ils perdent confiance. Moi, plein de fois, je suis complètement perdu dans le noir. J'avais plus de lumière de l'entrée. Je savais pas du tout où allaient les personnages, ni ce qu'allait devenir ce qu'ils allaient devenir. Et j'étais suspendu dans le vide, dans le noir, avec rien pour me raccrocher. Et c'est là où il y a un écueil à passer. Il y a cette espèce de cap à passer pour que le avant, c'est ma femme qui m'aidait quand elle était de ce monde, et elle me disait, ben, vas-y, continue, va jusqu'au bout, voilà, c'est besoin d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent, j'ai commencé un roman, je dis, allez jusqu'au bout, c'est super important, quoi. Sinon, ça sert à rien. C'est là qu'on s'aperçoit si on est fait pour ça ou pas. C'est d'aller jusqu'au bout d'un truc. Donc, je vais jusqu'au bout, et c'est un miracle qui se produit à chaque fois, c'est-à-dire que tout se dénoue, tout se remet en place, et puis j'arrive, je vois la lueur de la sortie, et d'un seul coup, là, ça y est, c'est reparti, quoi. Et souvent, à la fin de mes romans, je galope comme un fou, quoi. D'ailleurs, souvent parce que je suis en retard, donc ça, c'est le premier point de vue. Et ensuite, parce que tout s'éclaircit, et puis que le livre s'en va vers sa propre logique. Et j'ai fait la même chose pour Incarnation. Le livre est parti vers sa propre logique, et j'ai pas cherché à changer. Donc, j'ai pas eu de correction. L'éditeur m'a dit, sur la fin, il me manque un petit élément. Voilà, j'ai rajouté le petit élément qui manquait, mais c'était trois lignes. Et c'est tout, hein. Sinon c'était que des histoires de style, parce qu'évidemment, quand on est avec son texte pendant plusieurs mois, on ne voit pas très bien ses propres scories, donc il faut que quelqu'un les repère pour vous dire, bah non, t'as répété ce mot 50 fois, ah oui c'est vrai. Si on a le luxe d'attendre plusieurs mois avant que le livre soit publié, oui on les voit apparaître peu à peu, mais quand on est collé sur le texte, on voit rien du tout.
Le thème des Utopiales, cette année, c'est codé-décodé.
Ouais.
Ça vous inspire quoi ?
Codé-décodé, ben, je pense que tout est code, tout est... tout est code et rien n'est code. Enfin, c'est un petit peu compliqué cette histoire-là. Le langage est un code. Nos univers sont des codes souvent. Et d'ailleurs, l'imaginaire est très souvent codé. Enfin, il y a souvent ses propres règles, ses propres codes. J'essaie au maximum de me débarrasser des codes. Mais je sais très bien qu'on ne peut pas se passer des codes. Peut-être c'est utiliser les codes pour entrer quelque part, et puis une fois qu'on est dans la place, eh ben c'est de les modifier, de jouer avec, de se sentir libre par rapport à ça, de ne pas être coincé par les codes. Et c'est comme ça qu'on avance, j'ai l'impression. Mais je suis aussi conscient que beaucoup de lecteurs, par exemple, sur le genre, dans les genres d'imaginaire, ont besoin de ces codes pour rentrer. Le premier code, c'est la couverture, par exemple. Un bouquin, pour les lecteurs purs d'imaginaire, doit être codé d'une certaine façon, avoir une certaine forme d'image, de couverture, parce que si c'était une couverture blanche, comme dans les littératures générales, ça fonctionnerait moins. Inversement, les gens de littérature blanche détestent les codes des genres, parce que ça fait vulgaire, mauvais genre, etc. Il faut certainement passer par là, par ce premier regard, parce que le langage aussi est un code, donc c'est... On est obligé d'avoir des repères communs, en quelque sorte, pour qu'on puisse s'y retrouver. Et c'est après, une fois qu'on a fait rentrer le lecteur dans le bouquin, avec ses codes particuliers, sa couverture, son quatrième de couverture et tout ça, son langage, alors à nous, après, de jouer avec lui, avec tout ça, et de l'emmener vers là où on a envie de l'emmener. En dehors de tout dogme, de toute habitude de penser, de tout prêt à penser et de tout code, quoi.
On vous propose d'emprunter un chemin, d'emprunter une voie. C'est-à-dire que vous pouvez partir soit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, emprunter le chemin de briques jaunes, monter la Stairway to Heaven, descendre sur la Highway to Hell ou partir vers l'infini et au-delà. Vous prenez quoi comme chemin?
C'est quoi la première?
Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin.
Allez, je vais prendre celle-là.
Oui.
Il faut que je vous explique pourquoi?
Si vous voulez.
Je sais pas, ça parle d'étoiles. Et que je suis toujours intéressé par les étoiles.
Merci beaucoup.
Merci à vous.